Et au téléphone sonne ce soir, on va explorer les trois principaux dossiers du G7 qui s'ouvre demain à Biarritz. Dossier numérique d'abord, comment taxer les GAFA par exemple. C'est le combat d'Emmanuel Macron contre l'optimisation fiscale. Donald Trump lui a déjà répondu que c'était une stupidité. Autre dossier du G7, les inégalités dans le monde. Inégalités de revenus notamment, on va peut-être parler ce soir de la courbe de l'éléphant. Mais aussi égalité, inégalité entre les femmes et les hommes. Enfin, l'avenir des océans à ce G7, même si aucun consensus n'apparaît à l'horizon, ce dossier aura au moins le mérite de remettre d'actualité les pollutions des océans qui recouvrent près de 71% de la planète. C'est dire si l'impact est déterminant. Numérique, égalité et les océans, eh bien, vous avez un témoignage ou une question. Vous nous appelez, le standard est ouvert, c'est au 01 45 24 7000.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Et pour répondre à vos questions ce soir, trois invités. Annaëlle Guiton, bonsoir Annaëlle Guiton.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Libération en charge des questions numériques et de cybersécurité. À vos côtés, Lucas Ancel, bonsoir.
Chancel, bonsoir.
Lucas Chancel, vous êtes co-directeur du laboratoire des inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris et vous êtes également enseignant à Sciences Po. Et puis en duplex de Nantes, dans les locaux de France Bleu Loire-Océan, que l'on remercie, Philippe Goulet-Kier, bonsoir Monsieur Goulet-Kier.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en océanographie biologique et directeur scientifique adjoint de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. On file au standard pour commencer avec une première question. C'est Michel qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir. Je voudrais comprendre vous l'évoquiez, avec le numérique comme un des sujets du G7, à quels États profite actuellement le laxisme fiscal concerne l'ensemble des sociétés, des grandes sociétés du numérique et qu'on appelle sous un angle générique les GAFA.
GAFAM, même si on met Microsoft avec un M. Eh bien écoutez, on va soumettre la question à Annaëlle Guiton. Pierre vient de parler de laxisme des États. C'est pourtant au G7 un aspect plutôt volontariste d'Emmanuel Macron. Mais qui sont les laxistes dans cette histoire ?
De toute façon, on voit bien que c'est compliqué. Parce que pour rappeler un peu l'historique, hein, si ce débat arrive au G7, c'est parce qu'il y a aussi une taxe qui a été votée en France au mois de juillet. À l'origine, le plan entre guillemets de l'exécutif n'était pas de faire cavalier seul, hein, c'était de faire endosser ce projet par l'Union européenne. Oui. Il y a une poignée de pays qui ont plutôt freiné des quatre fers. Il y en avait quatre en l'occurrence, hein, l'Irlande, le Danemark, la Suède, la Finlande. De toute façon, enfin, l'optimisation fiscale, elle profite en première intention quand même aux géants du numérique, qui d'ailleurs ne se sont pas privés de rappeler très récemment à quel point ils étaient très 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 opposés à cette taxe. Ils parlent de discrimination. Trump aussi parle de discrimination, puisqu'il faut savoir quand même que le bureau du secrétariat au commerce, du représentant américain au commerce, a ouvert une enquête sur justement cette loi française pour voir si ça discriminait les entreprises américaines. La France évidemment s'en défend, mais enfin on voit bien qu'effectivement de toute façon c'est une grosse pierre d'achoppement avec les États-Unis.
Donald Trump effectivement ne parle non seulement de discrimination, il parle aussi de stupidité de la politique d'Emmanuel Macron et en menaçant au passage d'aller taxer les vins, l'importation des vins français. Au G7, ça risque donc d'être tendu sur ce dossier GAFA entre Emmanuel Macron et Donald Trump.
De toute façon, il y a des chances que ça fasse partie effectivement un peu des patates chaudes. Là où la situation est assez complexe, c'est qu'il y a quand même eu le G7 des ministres des Finances à Chantilly en juillet, qui avait accouché d'un accord, alors certes assez principiel, hein, mais d'un accord sur la nécessité d'imposer les activités numériques créant de la valeur sans ou avec très peu de présence physique dans les pays concernés. Donc on voit bien qu'on est précisément dans cette thématique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, mercredi soir, ne se privait pas de demander devant la presse est-ce que le secrétaire américain au Trésor et la Maison Blanche sont d'accord sur ce sujet ou pas, puisqu'il y a manifestement quand même deux options un peu différentes.
En juillet dernier, la France a voté une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires, hein, pas les bénéfices, le chiffre d'affaires des GAFA.
Pas seulement d'ailleurs.
Ça vise aussi des entreprises européennes. Hein. Trentaine d'entreprises sont concernées.
Ça ne vise pas que les entreprises américaines.
Mais quand on va taxer comme ça les entreprises européennes également, outre les GAFA américaines, y compris les entreprises européennes qui peuvent être en déficit, est-ce que c'est pas un peu le point faible de cette taxation de 3% sur le chiffre d'affaires?
De toute façon, il faudra voir au cas par cas, sachant qu'en plus, il y a quand même des critères posés au départ, hein, sur le chiffre d'affaires mondial, sur le chiffre d'affaires réalisé en France. Il faut faire 750 millions de chiffres d'affaires dans le monde, dont au moins 25 millions rattachés à la France. Donc on voit que ça vise quand même une catégorie d'acteurs qui sont les plus puissants. Alors après, ils ont déjà commencé effectivement non seulement à dire leur opposition, mais éventuellement même, entre guillemets, à contre-attaquer. On a vu qu'Amazon annonçait d'ores et déjà qu'ils allaient répercuter
sur le prix au consommateur.
Sur leurs partenaires, hein, plutôt sur les petites et moyennes entreprises qui vendent leurs produits via Amazon.
Cette taxe GAFA, Lucas Chancel, comment est-ce qu'elle va d'ailleurs s'accommoder en Europe, en tout cas, de là où sont proscrits, comment on appelle ça, je ne retrouve pas mes mots, la double imposition? Il y a déjà une TVA qui est payée dans les pays nationaux, il va falloir avec la taxe GAFA faire une deuxième imposition, c'est contraire au règlement européen. Comment est-ce qu'on va s'accommoder de tout ça?
En fait, le problème de la double imposition, il est un peu quand même brandi par les opposants à ce type de taxe, par les opposants finalement à tout type d'évolution du système fiscal pour dire ne changeons rien et continuons dans la bonne direction. Si on veut éviter une double imposition, si certains pays ont déjà mis en place une taxation sur les bénéfices ou une taxation alternative qui, si vous voulez, serait un peu l'équivalent de cette nouvelle taxe qu'on est en train de mettre en place, on peut tout à fait imaginer des systèmes de compensation des différentes entreprises. Le fisc peut donner des rétributions pour ces entreprises-là. Juste un point quand même sur cette taxe GAFA, sur l'évasion fiscale des multinationales en général, et pour répondre à l'auditeur précédent. En Europe, donc, qui bénéficie de cette évasion fiscale? C'est les paradis fiscaux, et ils ne sont pas que aux Bermudes, aux Bahamas et dans les autres parties du monde. On en a en Europe. L'Irlande profite de rentrées fiscales liées à sa politique fiscale très agressive pour attirer les GAFA. Mais là, c'est mon deuxième point, c'est pas qu'une question numérique, le problème de l'évasion fiscale, c'est aussi une question sur l'ensemble des multinationales, hein. Caterpillar, Kering, les entreprises françaises de luxe, les entreprises d'habillement, etc., etc., pratiquent les mêmes pratiques déloyales en matière fiscale. Donc, la taxe GAFA du gouvernement français s'attaque à une partie du problème, mais pour donner un ordre de grandeur par rapport à ce qui est perdu par l'État français, c'est un vingtième du problème. La taxe GAFA rapporterait un peu plus de 500 millions d'euros par an. L'évasion fiscale des multinationales en France, c'est 10 milliards d'euros de pertes par an à l'État français.
Pour que l'auditeur comprenne bien, on parle de deux choses ce soir. On parle d'optimisation fiscale, ça c'est légal, et on parle aussi d'évasion fiscale. Les GAFA, ils profitent plutôt d'optimisation fiscale ou est-ce qu'ils font de l'évasion fiscale interdite?
Écoutez, je pense qu'il faut aussi peut-être sortir de ce débat entre légalité et illégalité.
Et pourquoi?
Il y a de l'évasion fiscale.
Ça, c'est interdit.
Il y a de l'évasion fiscale, il y a ce qui est frauduleux et illégal, et il y a ce qui est du ressort de l'optimisation. Dans les deux cas, c'est de l'évasion, c'est-à-dire dans les deux cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire les sommes qu'on verse au fisc d'un pays donné.
Enfin, dans un premier cas d'optimisation, comme c'est légal, comment est-ce qu'on veut contrer ça?
Je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de cette logique que finalement l'optimisation,
les comptables ils sont logiques aussi.
L'optimisation serait du ressort de finalement l'intelligence, et les plus intelligents finalement vont pouvoir optimiser, et très bien, il y a rien à dire. En fait, ce qu'il s'agit ici, quand l'Irlande réduit ses taux d'impôt pour attirer les entreprises, pour attirer les profits qui devraient être déclarés ailleurs, c'est du vol. C'est du vol de la contribution fiscale qui devrait revenir aux autres États européen. Et cette pratique-là a beau être légale dans le cadre actuel, elle n'est pas légitime, elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine pour l'économie. Donc dans les deux cas, c'est de l'évasion fiscale.
Amel Guiton, sur ce débat, optimisation, évasion fiscale, un point de vue.
C'est bien pour ça précisément que l'objectif, en tout cas si on en croit les déclarations et d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, n'est absolument pas d'en rester à une initiative franco-française. Mais donc initialement, il s'agissait de passer par l'Europe, ça a capoté. Là, il s'agit de faire endosser l'accord de principe qui est sorti du G7 finance au niveau des chefs d'État et de gouvernement, même si ça va pas être simple. Et l'idée est aussi, à un moment donné, d'aller voir du côté de l'OCDE. Donc, pour le coup, je pense que les dirigeants sont eux-mêmes bien conscients que la réponse à l'optimisation fiscale, c'est l'harmonisation fiscale et que c'est plutôt ça l'objectif.
Et au G7, Emmanuel Macron, qui est assez volontariste sur ce dossier, il peut compter sur qui pour défendre cette taxe contre les géants du numérique et autres Européens d'ailleurs. Quels sont ses alliés parmi les 6 autres prétendants? La Russie, je ne suis pas certain.
On a bien senti que même au niveau européen, les désaccords sont forts. Les Allemands, jusqu'à présent, étaient extrêmement réticents, sous peur de représailles économiques des Américains.
Je disais les Russes, ils n'en font pas partie, hein, mais
qui sont,
de ce G7, c'est une erreur.
Qui sont également réticents. Après, je pense que sur cette question-là, c'est possible d'avancer étape par étape. Les Français montrent qu'on peut avancer, voilà, sur la taxe GAFA. Il faudrait aller au-delà. Il faudrait pas limiter ça aux entreprises du numérique comme on vient d'en discuter. Et finalement, c'est la vertu de ces avancées au niveau national, si on n'arrive pas à convaincre ses partenaires, c'est que ça met quand même les autres pays autour de la table de discussion. Ils sont obligés de se positionner par rapport à ça. Ils sont obligés de réagir. Donc même si, là, à la sortie de ce G7, il faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir faire de grandes avancées, la France peut encore faire beaucoup plus dans les mois et dans les années qui viennent, même si elle continue à avancer seule, et on espère que très vite elle sera rejointe par l'Allemagne et par ses partenaires européens.
Annaëlle Guidon.
Bah oui, puis même au plan européen, la France n'est pas non plus complètement isolée. C'est vrai que c'est probablement la plus visible, mais parce qu'ils y sont allés aussi à grands coups de déclarations et de communication et de politiques très volontaristes. Mais il y a eu, si je ne me trompe pas, un texte un peu du même ordre adopté en Italie. Donc, il attend encore ses décrets d'application qui est sur une taxation à
2%. Entre 2 et 3%.
Oui, je crois que c'est de cet ordre-là. Et puis, alors, il y avait. Il en était question aussi au Royaume-Uni d'un projet de taxation à 2%. Ceci dit, c'était avant l'arrivée de Boris Johnson aux manettes. Donc, voilà. Reste à savoir le devenir de tout ça.
Lucas Chancel, je vous pose la question, comment taxer les géants du net, donc dans des pays qui font certes du business, mais où ils ne sont pas vraiment représentés physiquement? Quelles sont les hypothèses qui peuvent être abordées au G7 pour faire avancer ce dossier?
Donc en fait, ici, ce qu'il s'agit de faire, c'est de calculer les profits qui sont réalisés du fait de ventes dans un pays donné. Donc on peut avoir plusieurs indicateurs pour calculer ça. Par exemple, les annonces faites, donc les annonceurs français qui vont passer par telle ou telle plateforme, eh bien on va savoir combien ils vont verser à cette plateforme numérique pour annoncer dans un pays donné. Ça va nous donner une indication de la part des profits réalisés en France par Apple, Google ou ces autres plateformes numériques. Il y a d'autres moyens de le faire, mais en tout cas, la réponse, c'est que quel que soit le moyen, c'est possible de le faire. Il n'y a rien qui nous empêche techniquement aujourd'hui de rapporter à un pays donné le chiffre d'affaires ou les profits, ou s'approcher du volume de profits réalisé dans un pays par rapport aux profits mondiaux de cette entreprise numérique.
Toujours à propos du numérique, Amaëlle Guiton, pardon, j'ai écorché votre prénom depuis le début de l'émission. Amaëlle avec un M, Amaëlle Guiton, toujours au chapitre des dossiers numériques. Le G7 va débattre aussi de la lutte contre la haine en ligne, des contenus à caractère terroriste. Également, la France est aussi assez moteur dans ce dossier. Que souhaite-t-elle imposer au G7, ou en tout cas, quelle idée veut-elle défendre?
Alors, imposer, ça va être compliqué parce que c'est des questions qui sont complexes et sur lesquelles tous les États ne sont pas forcément complètement en ligne. L'idée, je pense, c'est à la fois de se poser un peu en chef de file de tous ces débats sur la régulation des contenus, parce que c'est vrai que l'exécutif français est très moteur sur le sujet. Il y a une proposition de loi qui est encore en cours de discussion, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale sur le sujet et qui doit être débattu au Sénat. Et donc l'idée, c'est de, à partir de ça, de continuer à avancer. Il faut se souvenir qu'en mai, il y avait eu déjà l'appel de Christchurch qui avait été lancé avec la Nouvelle-Zélande sur la question de la lutte pour le coup contre les contenus terroristes en ligne, qui avait été rejoint par un certain nombre d'acteurs du numérique, mais pas par tous les pays, notamment les États-Unis ne l'avaient pas signé à l'époque. Et si on en croit ce qui se dit du côté de l'Élysée et ce qui est affiché, l'idée est de continuer dans ce prolongement pour obtenir des espèces de, on va dire, d'engagement, de principes à la fois des entreprises du numérique et des États pour effectivement lutter contre la cyberhaine. Sachant que là où la question est compliquée, c'est qu'on voit bien que par exemple en France, c'est un vrai débat et qu'il y a eu de très fortes critiques, que ce soit du Conseil national du numérique ou de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur la proposition de loi contre la cyberhaine, dont, ou évidemment bon, d'acteurs de la société civile, dont pas mal de gens disent que c'est aussi une manière de responsabiliser de plus en plus ces acteurs du numérique sur la régulation de la parole en ligne, qui relève de moins en moins de la justice. Donc on voit que c'est des dossiers compliqués. Il n'y aura probablement pas d'engagement ultra ferme, mais l'idée, c'est plutôt effectivement de, on va dire, d'enclencher des dynamiques. Et surtout de peser, finalement, j'ai l'impression, hein, c'est de construire une espèce de rapport de force pour peser dans ces discussions.
Sauf qu'à propos de la cyberhaine, vous l'avez un peu évoqué, pour Donald Trump, il n'est pas question de toucher à la liberté, quelle que soit la liberté, notamment la liberté de parole, également sur le net. Et donc, s'il y a un accord, ou en tout cas des ébauches d'accord, ce sera sans les États-Unis, a priori.
Ça me paraît effectivement assez peu probable, sauf à ce qu'il y ait effectivement un texte extrêmement tiède. Ça paraît extrêmement peu probable, effectivement, que les États-Unis s'engagent au stade actuel là-dessus. Bon, après, il faudra effectivement voir ce qui en sortira. Si j'ai bien compris, en fait, les grandes entreprises du numérique se sont déjà vues soumettre cette charte pour un Internet libre et ouvert. Et ça sera soumis, effectivement, au chef d'État ce week-end à Biarritz.
Allez, jusqu'à 20h, on aborde le G7 de demain avec ses grands dossiers numériques, les inégalités dans le monde et aussi l'avenir des océans et plus globalement l'avenir de la biodiversité dans le monde. On est ensemble jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Avec une question au 01 45 24 7000, donc question de Florent. Bonsoir Florent.
Bonjour tout le monde.
Vous nous appelez de Saint-Malo, me semble-t-il. Quelle est votre remarque ou votre question ?
Alors moi, ma remarque, elle est très simple. C'est, on va dire que c'est plutôt un coup de gueule. Parce que je vous ai entendu, donc là on parle de la cyberhaine, etc., des océans. Bon, c'est très important, je veux bien. Mais à quel moment on parle de la forêt amazonienne ? Parce que ça fait deux jours que j'entends les médias qui disent, oui, voilà, ça brûle, la forêt amazonienne est en train de brûler. J'entendais Emmanuel Macron hier ou il y a deux jours, qui parlait de crise internationale. Mais en fait, ça fait pas seulement deux jours qu'elle brûle, ça fait un mois. Alors pourquoi attendre le G7 pour en parler ?
Alors on va vous répondre. D'abord, d'un point de vue médiatique, si vous le permettez, ce sujet sur l'Amazonie n'était pas prévu au programme du G7 qui va s'ouvrir à partir de demain à Biarritz. Donc nous n'avions pas effectivement prévu d'en parler, puisque nous abordons ce soir les thèmes abordés à ce G7. Sauf que vous avez raison dans un deuxième temps, c'est que cette forêt amazonienne va s'inviter à la demande d'Emmanuel Macron, effectivement, dans ce week-end de Biarritz, de G7. On va rappeler l'actualité de ce vendredi, c'est un peu le haussement de ton entre la France et le Brésil alors que les incendies ravagent l'Amazonie. Emmanuel Macron donc veut en parler demain au G7. Il estime d'ailleurs au passage que son homologue Bolsonaro lui a menti. On rappelle que c'est un climato-sceptique. Il lui a menti lors du dernier G20 au Japon. Le président français accuse son homologue brésilien de ne pas respecter ses engagements climatiques sur la biodiversité. Le sujet sera abordé au G7 ce week-end. Lucas Ancel, là encore, c'est une grande inégalité. Ça va faire partie de ces chapitres où finalement ce poumon amazonien qui représente 20% de l'oxygène mondial, ça concerne finalement tout le monde.
Alors, et la question qui se pose pour, disons, pour les Européens, c'est qu'est-ce que les Européens sont en mesure de faire pour éviter la destruction de l'environnement dans d'autres parties du monde ? Je pense que c'est ça la question que nous, on devrait se poser en tant que citoyens.
On va en parler en fin d'émission à propos des océans.
Mais alors, sur la question de l'Amazonie, on allait quand même signer un traité de libre-échange avec le Mercosur, avec le Brésil notamment. Un traité de libre-échange qui allait faire venir en Europe des produits agricoles, du soja, du bœuf brésilien, dont la production est à la source des feux de forêt en Amazonie, ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ces feux de forêt, c'est pour l'agriculture brésilienne, c'est-à-dire qu'on défriche pour ensuite cultiver. Et on s'apprêtait, et donc il y a 2-3 mois au micro de cette même antenne, je me souviens, un des défenseurs anciens patrons de l'Organisation mondiale du commerce, de ce traité-là, nous disait que ce traité allait sauver l'Amazonie. Le traité allait sauver l'Amazonie. Donc là, ça nous fait tristement rire aujourd'hui. Le président français dit, bon, bah, finalement, on va pas traiter.
Il n'était déjà pas très chaud.
Alors, il n'était pas très chaud, mais bon, jusqu'à présent, il était quand même, il y a quelques heures, le traité était encore sur la table. Il ne l'est plus en l'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il faut être extrêmement vigilant et il faut aller plus loin. C'est-à-dire que on a une arme commerciale extrêmement forte. On a une arme en Europe qui est extrêmement forte, c'est notre arme commerciale. Et on n'utilise pas assez l'accès au marché commun pour obtenir de nos partenaires, pour obtenir des autres puissances mondiales, des avancées significatives en matière de protection de l'environnement d'une part, comme l'Amazonie, mais aussi en matière, et c'est là que les choses sont connectées, de lutte contre les inégalités et de lutte contre la fraude fiscale. Dans ce traité de commerce de libre-échange, il n'y avait rien, en tout cas pas assez sur la protection de l'Amazonie, et il n'y avait rien sur la question de l'harmonisation fiscale, sur la question de lutte contre l'évasion fiscale qui arrive nécessairement entre puissances qui se mettent à commercer sans frontières douanières, sans frontières tarifaires.
Alors les questions de biodiversité et d'Amazonie en particulier, on va en parler avec un scientifique qui est en ligne de Nantes dans les locaux de France Bleu Loire-Océan, Philippe Goudetker. Je rappelle que vous êtes docteur en océanographie biologique, directeur scientifique adjoint de l'IFREMER. Votre point de vue sur la question de l'auditeur ?
Alors effectivement, c'est une question très légitime, parce qu'on pourrait considérer que le problème est uniquement brésilien, mais il y a des implications à un niveau international, et je pense qu'il est légitime que ça remonte dans le débat international. Juste les conséquences qu'on peut envisager sur la déforestation et donc les feux, à partir du moment où vous avez plus de végétal en couverture de cette forêt, vous allez avoir beaucoup plus de lessivage des sols, et donc des apports d'éléments nutritifs au niveau du bassin amazonien, au niveau de l'Amazone et derrière au niveau océanique. Donc à l'heure actuelle, il y a déjà des hypothèses sur, par exemple, la prolifération des sargasses dans la mer des Sargasses et qui arrivent sur les Antilles. Mmh, mmh. Donc des algues qui prolifèrent naturellement, mais qui peuvent être favorisées en termes de développement si vous avez beaucoup plus d'éléments nutritifs dans le milieu marin. Donc effectivement, on a bien un milieu qui est connecté. Le milieu océanique va dépendre des apports qui vont arriver au niveau du bassin et du fleuve Amazon.
On va vous
retrouver. Il y a bien des conséquences au niveau international.
Dans un instant, Philippe Goudetker, pour parler spécifiquement de l'avenir des océans, on va aborder le chapitre des inégalités dans le monde, donc ces richesses de moins en moins redistribuées, donc des inégalités qui augmentent ou pas finalement, Lucas Chancel, dans le monde, ces inégalités du revenu, je parlais.
Donc si on s'intéresse aux inégalités mondiales de revenus entre les citoyens du monde, on passe d'un monde, disons au début de la grande transformation des années 80-90, avec l'essor des pays émergents, la révolution néolibérale en Amérique du Nord et dans certains pays européens, on passe d'un monde qui à l'époque était caractérisé par de fortes inégalités entre pays, l'essentiel des inégalités mondiales c'était des inégalités entre pays, à aujourd'hui un monde qui est caractérisé par des inégalités à l'intérieur des pays.
Donc, les classes moyennes qui trinquent.
Alors, les classes moyennes trinquent, mais de manière différente selon les pays. Les classes moyennes asiatiques, et particulièrement en Chine, sont en essor. En Inde, la classe moyenne, elle est difficile à trouver, en fait. Si vous voulez, en Inde, vous avez une croissance forte, mais surtout extrêmement forte au sommet de l'échelle des revenus. Elle est forte en bas, mais les Indiens n'ont pas encore réussi à vraiment créer une classe moyenne conséquente, en tout cas dans la mesure de ce qui a été produit en Chine. Maintenant, les inégalités augmentent à peu près dans toutes les régions du monde qui ont connu des inégalités faibles au cours du XXe siècle. Je veux dire l'Europe, l'Amérique du Nord et les géants asiatiques. Maintenant, ces inégalités, elles augmentent pas de la même manière et pas à la même vitesse. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est de voir ces trajectoires divergentes. Les États-Unis, il faut le rappeler, avaient le même niveau d'inégalité que l'Europe en 1980. Les inégalités ont explosé aux États-Unis, elles ont augmenté en Europe et moins rapidement qu'aux États-Unis. Et là, le grand enseignement de ces 40 dernières années de mondialisation, du point de vue de l'inégalité, c'est quand même que ça ne ruisselle pas. pour le dire en une phrase, la croissance.
La théorie du ruissellement, c'est que l'argent au sommet profite à ceux qui sont plus bas.
Voilà, c'est l'idée que s'il y a plus de croissance en haut, il va y avoir plus de croissance en bas. Bon, c'est le contraire qu'on observe quand on, par exemple, quand on regarde les États-Unis avec l'Europe. Eh bien, il y a eu plus de croissance au sommet aux États-Unis, zéro croissance ou quasiment zéro croissance pour la moitié la plus pauvre aux États-Unis. L'Europe a davantage réussi à élever le niveau de vie de ses classes populaires avec une croissance moyenne qui était un peu moindre.
Quelques questions d'auditeurs à propos des inégalités. Et on entend le terme de ploutocratie. Alors, on va rappeler ce que ça veut dire. La ploutocratie, c'est quand les plus riches des hommes, les femmes les plus riches du monde prennent aussi le pouvoir politique d'un pays, un milliardaire à la tête des États-Unis, c'est déjà d'actualité. Question, est-ce que la ploutocratie est une dérive qui pourrait mettre en danger la démocratie? Je vous pose la question, Lucas Chancel.
C'est pas qu'elle pourrait, c'est qu'elle peut et c'est qu'elle le fait déjà. En fait, le problème de l'inégalité, c'est un problème qu'on pourrait qualifier de moral, mais ça, on va laisser aux gens penser ce qu'ils veulent. Mais il y a un autre problème, qui est un problème que quand vous avez une surconcentration des revenus et des patrimoines aux mains de quelques-uns, ça crée un tas de dysfonctionnements, et notamment dans le jeu politique. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup d'argent vont pouvoir s'acheter du droit à la diffusion de messages, et notamment en s'achetant des titres de presse, des radios, des télévisions, comme c'est le cas en France, avec une structure médiatique qui est extrêmement concentrée aux mains de quelques milliardaires qui détiennent la plus grande partie des titres de la presse française. On le voit aussi aux États-Unis. Donc la ploutocratie, elle est en partie déjà là dans des démocraties qu'on pourrait qualifier de démocraties de basse intensité, comme certains la nomment.
La question de Géraldine derrière, c'est est-ce que cette ploutocratie risque de s'accentuer encore? Est-ce que c'est le courant majoritaire qui pourrait avoir d'autres effets et de plus en plus présent?
Alors, donc ça revient à se poser la question de où va cette accumulation des richesses et quelle est la tendance? Et malheureusement, la tendance ne va pas dans le bon sens. Donc certains avaient espéré qu'après la crise économique de 2008, il y ait une réduction des inégalités. C'est ce qu'on observe juste après la crise, hein, dans tous les pays à peu près. Vous avez la part du revenu ou du patrimoine capté par les 1% ou les 0,1% du haut qui va tomber un peu. Mais au bout de quelques années seulement, elle repart à la hausse sur la même tendance qu'avant. Et aux États-Unis, on a redépassé aujourd'hui les niveaux atteints avant la crise. Donc en fait, cette crise économique, elle n'a pas inversé la tendance. Les fondamentaux du système économique qui produisent cette inégalité toujours plus forte sont toujours là.
En tant que chercheur, à propos d'opacité, je vois passer des questions par mail sur l'opacité. En tant que chercheur, est-ce que vous déplorez l'opacité des États pour évaluer les statistiques fiscales à travers le monde? Est-ce que vous diriez qu'il n'y a pas une grande transparence des politiques publiques des États, et quels que soient les États notamment?
C'est vraiment le premier point, c'est la condition non suffisante mais nécessaire pour traiter les inégalités si on veut être sérieux avec ces objectifs de réduction des inégalités qui je rappelle sont des objectifs qui sont des objectifs de l'ONU, c'est-à-dire que tous les États du monde se sont mis d'accord pour réduire les inégalités sous l'égide de l'ONU et notamment ces pays du G7 qui vont se retrouver demain et après-demain. Et cette condition, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on en est et comment la croissance se répartit. Or, aujourd'hui, les États ne sont même pas capables de le dire avec précision.
Ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas le dire?
Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, parce que souvent, ça arrange pas les gouvernements de faire cette évaluation de leur politique publique. Et peut-être que si on l'avait un peu mieux fait, notamment en France, avec la taxe carbone, on serait rendu compte, a priori, c'est-à-dire avant que la politique soit mise en place, que c'était une taxe qui allait peser bien davantage sur certaines catégories de la population que sur d'autres. Ça, c'est juste un exemple dans le cas national. Mais il y a une autre raison, c'est que les États n'ont pas mis en place l'outillage statistique nécessaire pour bien mesurer cette croissance. On reste encore sur des chiffres de croissance moyens, sur un PIB moyen, et on n'a pas annuellement, donc année après année, chaque fois qu'on publie les chiffres du PIB, on devrait pouvoir publier des chiffres sur la répartition de la croissance. Et aujourd'hui, ce sont les chercheurs et la société civile qui fait ce job-là.
Mais les outils dans les États n'existent pas.
Alors, c'est les États qui détiennent toutes les informations, mais ils ne les utilisent pas, ils ne mettent pas en place l'outillage statistique pour le faire. Dernier point là-dessus, quand on supprime l'impôt sur la fortune, on supprime en même temps l'ensemble des données qui nous permettent de bien mesurer l'évolution des patrimoines. Donc, c'est non seulement ça va pas dans le bon sens, mais dans certains pays, la situation régresse en matière de transparence fiscale.
Vos questions au standard au 01 45 24 7000. On parle du G7 et de ses dossiers à partir de demain, tout le week-end jusqu'à lundi. Dossier numérique, dossier sur les inégalités du revenu et dossier également sur la bioéthique et les océans. Avec Michel qui est en ligne, vous nous appelez du département de l'Aude. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question ?
Ma question, je suis paysan bio dans l'Aude et je voulais poser la question, puisque les accords du Mercosur sont à l'actualité du G7 aujourd'hui, là, si les accords internationaux, les accords de libre-échange comme le Mercosur ou le CETA n'ont pas les mêmes dégâts sur la pêche et sur l'agriculture, puisque ce sont les mêmes règles. Et je pourrais donner comme image un reportage d'Élie Jusset qui montrait 3 milliardaires de 7 sur les ports de notre Occitanie, là, qui faisaient leur pêche destructrice en 15 jours et qui avaient des quotas quasi illimités, dont un bateau qui était sous pavillon libyen. Et pendant ce temps-là, des petits pêcheurs qui avaient 500 ou kilos ou une tonne de quotas attendaient depuis 7 à 10 ans des ouvertures de quotas sur des pêches, quoi, et qui ne les obtenaient pas. Et donc, ça montre que ceci, pour nous, Confédération Paysanne, montre que la répartition des droits est comme dans l'agriculture, c'est-à-dire 80% des aides vont à 20% des pêcheurs et des agriculteurs. Voilà.
Merci.
Et je voudrais dire que oui, sur l'export-import par rapport à la FNSEA, la FNSEA est contre les accords du CETA, mais elle est pour le droit à l'exportation et pas pour le droit à l'importation. Alors nous sommes pour le contrôler de l'exportation et de l'importation.
Bon, mais écoutez, je vous en prie, on va s'intéresser, on va en parler avec Philippe Goulet-Kerr, hein, qui est docteur en océanographie biologique et directeur scientifique adjoint de l'IFREMER. Il faut peut-être rappeler, Philippe Goulet-Kerr, que l'un des plus gros facteurs humains qui dégrade nos océans, c'est aussi, comme vient de le dire cet auditeur, la surpêche.
La surpêche, donc, c'est considéré comme un des vecteurs, effectivement, un des 5 vecteurs impactant la biodiversité et finalement l'état de l'environnement. Donc, pour faire référence à la question de l'auditeur, je pense qu'il faisait référence à la pêcherie de thon rouge en Méditerranée. Et justement, c'est un exemple qui permet de montrer que finalement, une bonne prise en compte des avis scientifiques, derrière une bonne régulation et de contrôle de ces pêcheries-là, permettent d'avoir une durabilité sur la pêche. Donc c'est un exemple. Il y a quelques années, la pêcherie de thon rouge en Méditerranée était considérée comme dans une situation catastrophique et était proche du classement au niveau de la Convention internationale de la CITES pour interdiction de commercialisation. Donc il y a eu une prise de conscience de cette surpêche. Et la mise en place de quotas assez drastiques.
Et de façon plus générale, l'IPBES, hein, qui est aux océans, ce que le GIEC est au climat, l'IPBES vient de rendre un rapport d'où il ressort que les océans n'ont jamais été autant menacés qu'aujourd'hui par l'activité humaine. On va rappeler de quoi sont-ils menacés, les océans, et par quoi surtout ?
Alors, on retrouve les vecteurs de pression sur les océans qui ont été identifiés au niveau de la plateforme sont assez similaires finalement à ce que l'on a dans le milieu terrestre, c'est-à-dire détérioration des habitats, surexploitation des ressources naturelles, donc le changement climatique évidemment, les espèces invasives et donc les pollutions. Donc c'est à peu près, ce sont les vecteurs qui pèsent le plus sur la durabilité et la préservation de la biodiversité.
Et puis il y a ce monstre de plastique, hein, dans les océans, ce qu'on a appelé le septième continent. Qui s'en préoccupe réellement aujourd'hui ?
Alors les plastiques, il y a beaucoup d'études qui sont menées sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment un sujet qui doit être traité à l'échelle internationale et mondiale. Donc à l'échelle européenne, on a des directives européennes qui visent à identifier les tendances et à limiter justement les apports de plastique dans le milieu océanique. Si on regarde la situation globalement à l'échelle mondiale, on a à peu près 300 millions de tonnes de plastique dans les océans et on a entre 10 et 20 millions de tonnes qui arrivent en plus chaque année. Donc il y a une vraie difficulté par rapport à ce point-là. Et si on regarde sur les 20 premiers pays contributeurs de ces plastiques-là, bon, principalement, on va dire, en Asie, On voit que le déficit vraiment se situe au niveau des infrastructures à terre pour le retraitement et la prise en compte de ces plastiques.
C'est-à-dire que vous n'attendez pas grand-chose. Si ça se passe en Asie, vous n'attendez pas grand-chose sur ce point précis du sommet du G7 ce week-end.
Si, je pense qu'il y a quand même, une prise de décision internationale. Alors effectivement,
alors, quelles avancées précisément attendez-vous?
Au niveau de la décision des membres du G7, alors il y a un pays invité, donc l'Inde, qui est concerné par ce sujet-là, mais je pense qu'il y a quand même une direction, un souffle qui est donné par les pays développés vis-à-vis des Nations Unies et vis-à-vis des différentes réglementations qui peuvent être élaborées et les conventions internationales qui peuvent être élaborées sur ce sujet-là.
Mettre en place des zones marines sanctuarisées, on appelle ça des aires marines protégées. Est-ce que ça fait partie des solutions qui se mettent en place facilement? Ça existe en France, en Europe?
Oui, alors la France est assez bon élève sur ce sujet-là, puisque les objectifs internationaux qui sont déjà déterminés depuis la Convention de Rio et la Convention de diversité biologique, c'était d'avoir à peu près 10% des espaces océaniques sous statut d'aire marine protégée. À l'heure actuelle, on doit être à 1%, 1,5%. En France, on est à plus de 20%. Donc, il y a eu une volonté politique de développer ces aires marines protégées. Donc, ça, c'est un point assez positif. Par contre, le gros problème, la grosse difficulté que l'on a à l'heure actuelle, tient au fait que les législations nationales n'opèrent que dans les 200 000 marins et on a la haute mer. Au-delà des 200 000 marins, on est dans un système, à l'heure actuelle, sans gouvernance. Donc il y a des négociations au niveau des Nations Unies, à l'heure actuelle, justement cette semaine, pour établir un processus de gouvernance pour ces secteurs qui, à l'heure actuelle, ne sont pas sous législation nationale.
On retourne au standard.
C'est un point très important.
Oui,
c'est un point très important parce qu'on ne peut pas avoir d'aires marines protégées qui fassent vraiment l'objet d'une protection réelle au-delà des 200 000 marins à ce jour.
Au standard, Philippe nous appelle. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre remarque?
Je voulais savoir si le monsieur océanographe pouvait nous parler de la pollution sonore qui est due dans les océans, tout ce qui est communication par sonar, etc., des bateaux commerciaux ou notamment militaires, qui a par exemple poussé des tonnes d'animaux à s'échouer sur les plages parce qu'ils fuyaient du coup le vacarme assourdissant ou qui étaient perturbés dans leur période de reproduction, parce que les sonars sont aussi des moyens de reproduction, de communication pour eux. Savoir s'il y avait, si vous pouvez nous en parler un peu, et savoir s'il y avait des initiatives politiques qui allaient dans le sens de l'interdiction de ça.
Eh bien, on pose la question à Philippe Goulet-Pierre.
C'est effectivement un indicateur de l'état de l'environnement, et il y a bien une prise en compte au niveau international de cette pollution sonore, qui peut être d'ailleurs aggravée par le changement climatique. Le changement de caractéristiques des eaux marines peuvent accroître la pollution sonore. Alors, à l'heure actuelle, au niveau européen, par exemple, nous avons la directive cadre stratégie milieu marin, donc qui définit des objectifs environnementaux et des objectifs pour les échéances à venir, et qui tend à réduire, justement, cette pollution sonore. Donc, il y a une surveillance dans le temps de cette pollution pour essayer de la limiter et de la réduire. Il y a différentes sources de pollution sonore. Il n'y a pas
que les hélices et les sonars.
Pas que les hélices et les sonars.
Lucas Chancel, quelques questions également. Je rappelle que vous êtes co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales, en rappelant que plus d'un tiers de l'humanité habite en région côtière. Il va donc non seulement s'agir des conditions de vie dans l'avenir de ces populations côtières, mais aussi des emplois. Là encore, c'est une source d'inégalité avec ce qui se dessine à l'horizon, c'est-à-dire de potentiels réfugiés climatiques. Ça fait partie des inégalités qui sont prises en compte?
Absolument. Enfin, les inégalités environnementales sont la nouvelle frontière des inégalités sociales, des inégalités socio-économiques. Et ces inégalités sociales et écologiques entretiennent un cercle vicieux, puisque voilà, les dégradations climatiques vont renforcer les inégalités, les tensions dans ces sociétés qui le sont déjà inégalitaires. Et le problème, c'est que ces inégalités économiques nous empêchent aussi souvent de mettre en place les politiques climatiques, les politiques environnementales qui vont nous permettre de réduire nos niveaux de pollution. On l'a vu avec la taxe carbone. On a vu parce que certaines politiques environnementales peuvent attiser ou créer de nouvelles tensions sociales. En tout cas, ne vont pas dans le sens de résorber ces fractures sociales si elles ne sont pas pensées comme telles. C'est-à-dire que on peut faire des politiques environnementales plus ou moins égalitaire ou plus ou moins inégalitaire. Aujourd'hui, on a plusieurs offres écologiques en face de nous. Et bien sûr qu'il y a des offres de politique écologique qui peuvent réconcilier ces deux enjeux du XXIe siècle, ces deux enjeux du G7, que sont la lutte contre les inégalités, la lutte contre le réchauffement climatique. Mais pour ça, encore une fois, il faut avoir de bonnes informations, de bonnes données. Il faut arrêter avec cette opacité en matière financière, en matière climatique. Et puis aussi, il faut le vouloir. Réduire ces inégalités et protéger l'environnement au-delà des incantations.
Eh bien, on verra s'il y a une volonté ce week-end au G7 de répondre politiquement à toutes ces questions. Merci beaucoup à Maëlle Guiton, Lucas Chancel et Philippe Goudetker. Merci aussi à la liaison technique mise en place par France Bleu Loire-Océan. Dans 30 secondes, il sera 20h.